Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je vais animer cette séance consacrée à l'ouvrage Archive Remix, Archive Remix. Je crois qu'on peut utiliser les deux langues à propos de ce livre qui est véritablement au confluent de plusieurs cultures. Je crois que ce qui est admirable dans cet ouvrage, c'est sa nature internationale, puisque l'ouvrage, et bien sûr, les contributeurs et contributrices pourront nous éclairer sur ces questions. Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration entre plusieurs universités, certainement entre l'université de Bordeaux et l'université de Bayreuth. Mais ce qui est impressionnant, c'est aussi la démarche intellectuelle qui sous-tend cette collection, ce recueil d'essais. Et aussi la manière dont l'archive, cette notion d'archive, qui est un véritable concept, hein, est traitée par les différents collaborateurs. Alors, pour lancer le débat, je crois qu'il serait utile tout d'abord de présenter les directeurs et une des co-directrices aussi de ce projet à ma droite. Maëline Lelay, qui est chargée de recherche CNRS au LAM, les Afriques dans le monde, qui est un laboratoire CNRS, justement, à l'université de Bordeaux, ainsi que Nadine Siegert, qui, elle, par contre, est directrice adjointe de la Eva Löwa House à l'université de Bayreuth, qui est, comme justement, je crois, dans la contribution, de Katharina Greven et Pierre-Nicolas Bounakoff, dans cette excellente contribution, on nous parle de ce haut lieu de la culture africaine à Bayreuth et du fait aussi que ce haut lieu de la culture africaine soit devenu au cours des années un musée vivant ou une archive vivante. Donc, l'archive, quelle est la signification de l'archive? Évidemment, toutes ces interrogations s'inscrivent dans ce qu'on pourrait appeler dans la nébuleuse peut-être des post-colonial studies, parce que si, et en fait, Alain Ricard, qui a contribué aussi à cet ouvrage, parle de la manière dont cette notion d'archive a été explorée en Afrique du Sud, et notamment dans un ouvrage Refiguring the Archive. Hein? Donc, cet ouvrage parle de l'archive, mais d'une vie post-archivistique aussi pour ces archives. Et Refiguring the Archive est un titre intéressant qu'on pourrait traduire par donner un nouveau visage aux archives. Donc il y a tout un travail, non seulement dans le chef d'écrivains africains tels Kassia Djébar ou Kuruma, sur cette notion d'archives, mais ce qui est intéressant ici, c'est le caractère, je dirais, interdisciplinaire des approches. Moulard. Sophie Moulard, vous êtes intéressée à des objets, à toute une série d'objets. Hein. Alors, peut-être pour lancer le débat, je me disais, on pourrait peut-être retourner à la genèse de ce projet, un peu, pour essayer de découvrir un peu ses modalités et aussi les motivations qui vous ont poussé à écrire ce livre.
Merci Pierre-Philippe pour la présentation. Donc ce livre, Archives Remix, Vue d'Afrique, est en fait un livre qui a été fabriqué à partir de communications qui ont été données lors d'un colloque que l'on a organisé avec Alain Ricard à Bordeaux en 2013. Un colloque qu'on avait appelé Archives, Textes, Performances. et qui était donc organisée par l'Association pour l'étude des littératures de l'Afrique, et qui, dès le début, se donnait comme objectif de faire dialoguer les spécialistes, on peut dire, du texte et de la littérature, et des gens qui, eux, travaillent plus à partir des arts visuels, à propos de cette thématique de l'archive et du retravail de l'archive, mais aussi de la performance. Donc c'était un petit peu l'idée d'interroger cette concaténation assez singulière, il nous semblait, en tout cas dans le paysage artistique et académique français, archives, textes, performances, comment est-ce que ça dialogue ou pas d'ailleurs, comment est-ce que ça marche. Voilà, et donc c'était en effet, et là peut-être que je ne vais pas en dire plus et je laisserai la parole à Alain Ricard par rapport au choix de cette thématique, en partie inspiré du travail qui avait déjà été fait donc en Afrique du Sud, là on en a parlé, Refiguring the Archive, donc on avait nous traduit plus maladroitement par reconfigurer l'archive, mais c'est vrai que la traduction est bien plus précise et juste et élégante, hein, de donner un nouveau visage à l'archive. Donc un projet polymorphe en fait, qui s'était tenu à Johannesburg, à la fois une exposition et un colloque autour de l'exhumation des archives de l'histoire sud-africaine et évidemment de l'apartheid. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces archives de l'apartheid et comment est-ce que les artistes s'en emparent et tentent de redonner un sens et peut-être de s'approprier une histoire aussi douloureuse et traumatisante soit-elle. Bon. Alain Ricard pourra compléter cette partie qui expliquerait donc pourquoi ce thème. Je vais peut-être simplement redire un mot des modalités pratiques, puisque, et pour compléter ce que Pierre-Philippe vient de dire, c'est donc un livre qui a été co-dirigé avec deux autres collaboratrices qui ne sont pas là, mais par la pensée, voilà, je sais qu'elles le sont depuis Bayreuth et depuis Paris, puisque donc c'est un projet, le livre est né donc de ce projet de colloque qui lui-même était organisé en collaboration avec l'Université de Bayreuth et notamment Iva Levahaus. Donc qui est, en fait, Iva Levahaus, c'est une formule, je crois, assez singulière, encore une fois, dans le paysage français. C'est à la fois un centre de recherche et à la fois un musée, centré donc sur l'Afrique et sur la production artistique contemporaine d'Afrique. Et donc, on a organisé ce colloque ensemble. Et par la suite, Dominique Malaquais, avec qui on avait commencé à travailler, qui a beaucoup travaillé les textes et qui travaille sur les mêmes thématiques, c'est adjointe à nous. Je ne sais pas si vous voulez peut-être dire un mot sur Bayreuth, puisque vous êtes plus qu'un héritier, un tenant de cette histoire d'une collaboration assez longue avec l'Université de Bayreuth.
Dans le volume, il y a un chapitre qui explique effectivement au fond, la genèse de tout, à la fois du projet du livre, du projet du musée. C'est-à-dire, au fond, imaginez la situation. Vous êtes dans la Haute Franconie et vous engagez quelqu'un que personne ne connaît en Haute Franconie, ni d'ailleurs dans le reste de l'Allemagne, qui s'appelle Uli Bayer, qui a passé 40 ans de sa vie, les 40 dernières années de sa vie, en Afrique, au contact de milieux artistiques, qui a fondé des revues, qui a fondé des musées, qui a dirigé le centre d'études africaines de l'université d'Ifé, qui a amené beaucoup d'argent de fondation pour les artistes nigérians, qui a constitué une collection prodigieuse d'artistes nigérians. Et nous sommes dans les années 80, et ce type vient à Bayreuth avec sa collection. Alors bon, qu'est-ce qu'on va en faire? On va la mettre dans des armoires, tout entassées, ou si vous voulez, comment est-ce que ça, on peut le faire parler à nouveau? Et je crois que là, c'est effectivement là, donner un nouveau visage, donner un nouveau visage, c'est-à-dire faire parler. Par exemple, donc il y avait beaucoup d'images et d'artistes qui sont devenus des stars mondiales. Il y a quelqu'un comme Twin 77, donc une collection prodigieuse. Mais cette collection, c'est aussi un témoin de l'histoire, mais il faut lui poser des questions et puis montrer ça et dans une démarche où il y a un dialogue avec des étudiants, parce que ce musée est dans une université. Donc, si vous voulez, cette problématique de l'archive, elle est née du fait qu'on avait embauché quelqu'un qui avait une énorme collection d'archives dont on ne savait au fond pas trop que faire. Et au début, un des problèmes a été, oui, qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, moi, j'ai suivi ça un peu dans la longue durée, dans les 30 années. Et c'est très intéressant de voir qu'au début, on savait pas très bien ce qu'on allait faire. Parce que les musées d'ethnologie, ils disaient, mais ça, c'est pas de l'ethnologie. Les musées d'art contemporain, ils disaient, qu'est-ce que c'est que cet art qui n'a aucun intérêt? Enfin, donc, on savait pas quoi en faire. Et donc, on s'est mis à poser des questions, à faire des expositions, si vous voulez, thématiques, à faire jouer ça avec d'autres artistes. Et c'est ça l'important. On s'est mis à faire jouer ce qu'il avait amené du Nigeria avec des artistes allemands, des artistes européens, et avec des problématiques, par exemple, la question de la violence, la question des enfants soldats, la question de Lagos. En fait, toutes ces questions-là, on s'est mis à les poser à ce qu'avait ramené Uli Baier. Et je crois que cette démarche a été extrêmement, extrêmement féconde. Et pour donner un exemple très contemporain, ils ont continué à amasser, et ils ont notamment amassé une collection de ce qu'on appelle les films de Nollywood. Je ne sais pas si tout le monde est familier ici avec ça, c'est-à-dire que le Nigeria est devenu aujourd'hui le troisième producteur mondial de films en nombre de titres. Et donc, après l'Inde, je crois, les États-Unis produisent un millier de 2000 films par an. Alors, ce sont des films numériques, c'est une production qui a... Il y a Hollywood, Bollywood, c'est Bombay, ou c'était Bombay, il y a Nollywood, c'est le Nigeria. Bon, on peut entendre autre chose dans Nollywood, mais enfin, bon, en tout cas, il est évident que cette... Alors, ils avaient toutes ces cassettes, mais personne ne veut jamais voir ça. Enfin, c'est complètement... Enfin, je veux dire, j'ai essayé, mais vous avez toutes ces cassettes vidéo, vous en avez des centaines et des centaines et des centaines, ils avaient tout ça. Alors, qu'en faire? Et alors là, il y a un artiste kényan qui s'appelle Sam Hawkins, qui lui a imaginé, finalement, de travailler sur ces images-là, à la fois en les numérisant, en faisant jouer ces images avec des visiteurs actuels d'une sorte de studio de Nollywood. Donc il a remis en scène la production numérique dans un contexte africain. Et lui, c'est un artiste kényan. Et il a fait ça avec les images de Nollywood. Donc finalement, soudain, ça prenait une autre pertinence. Donc il a donné un nouveau visage, c'est ce dont on parlait. Il a donné un nouveau visage à ces images. Et je crois que ça, c'est une... Et Sam est devenu un artiste qui a été très présent dans cette dynamique de la reconfiguration. Idem pour un artiste cette fois sud-africain qui s'appelle Johan Thom, qui lui s'est posé la question de bon, effectivement, que comment parler de l'apartheid? Et bien lui, il parle de l'apartheid d'un côté où il sent par le test des cheveux, c'est-à-dire le test des cheveux, c'était pour savoir si on avait les cheveux crépus, on vous mettait un crayon dans les cheveux, et donc il a fait des performances où il se blessait, enfin des choses tout à fait qui parlent de l'histoire de l'Afrique, qui parlent de la violence et de questions contemporaines, mais qui en parlent de façon à la fois physique et des performances qui ont beaucoup de sens. Enfin, donc ils ont réussi à avoir une notoriété, à créer des résidences d'artistes, et c'est ça, si vous voulez, qui a été important, c'est-à-dire des résidences d'artistes qui sont venus travailler à partir de ce qui était déjà là, pour le reprendre, des résidences. Donc, et aujourd'hui, ils sont dans le plein centre de Bayreuth. C'est comme si, je ne sais pas, on avait un des plus beaux bâtiments du centre de Bordeaux. C'est une petite ville, c'est 100 000 habitants, qui est consacrée à cette archive-là, à ces résidences d'artistes, à ces lieux. Et je veux dire que c'est tout à fait stimulant et ça parle.
Et voilà. Le rapport avec Bordeaux, peut-être, c'est-à-dire ce qu'on on a fait parallèlement au colloque.
Oui, et si vous voulez, justement, quand le directeur d'Ivaleva est venu à Bordeaux, je remonte un petit peu, c'est qui est Ulf Virke, il avait été très très impressionné par la collection d'un collectionneur bordelais qui l'a exposé à l'Ormont. Beaucoup de gens l'ont vu, mais pas assez. Il n'y a pas eu de catalogue et je pense que dans 20 ans, on fera une exposition et des catalogues et on découvrira ça comme une œuvre de collection extraordinaire, parce que les collectionneurs contribuent à l'histoire de l'art, qui est mon ami Guy Lenoir, qui avait une collection chez lui, sa maison, c'est un petit son appartement est une sorte de musée. Ouf, avait été absolument impressionné par ça, et il me dit, il faut qu'on expose ça à Bayreuth. Donc, et il me l'a dit, et on l'a fait. Et donc, on a exposé à Bayreuth une partie de la collection de Guy, de ce que nous avions exposé à Bordeaux. Et ça c'était très, très impressionnant de faire ça. Puis ensuite, ils ont exposé, eux, un choix dans leurs archives. Et on a fait ça à Bordeaux. C'était en 2014, je crois. Et alors, à cette occasion-là, on avait fait venir à Bordeaux le congrès de l'Association pour l'étude des littératures de l'Afrique. Et on a voulu se poser des questions pour savoir cette démarche qui, en quelque sorte, épistémologique, archéologique, de nouveaux visages de l'archive, de poser de nouvelles questions à des documents qu'on aurait pu laisser là dans leur coin. Toute cette question-là, on a voulu la poser à partir, certes, des textes, mais aussi à partir des images, et puis aussi, on peut la poser à partir d'autres choses. Alors bon, et finalement, on a voulu faire ça avec nos collègues allemands, et avec un certain nombre de collègues qui venaient d'autres horizons, en particulier de la photographie, parce qu'il faut bien dire, alors là je parle sous le contrôle de Maëline, que mes collègues de notre association n'étaient pas super enthousiastes pour cette thématique. Je parle de l'association pour l'étude des littératures de l'Afrique. On sortait un petit peu, j'allais dire, d'une sorte de, finalement, de vision plus traditionnelle de l'histoire littéraire. Et je crois que c'était un petit peu dommage. Bon voilà, alors ça c'est le résultat de ça, de cette sortie, tentative de sortie.
Hein? Et voilà, bon, oui, c'est vrai. De fait, les choses bougent et ont évolué depuis, puisque on prépare un prochain numéro sur une expo. C'est simplement pour faire un petit lien. Une expo dont vous avez sans doute entendu parler, ou peut-être, l'expo Beauté Congo, qui s'est tenue à la Fondation Cartier l'année prochaine. Donc voilà, les collègues, c'est quand même bon signe, puisqu'on parle d'interdisciplinarité ou d'indiscipline. Oui. Les collègues semblent être plus poreux, disons, au mélange des disciplines. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je termine. Et par ailleurs, c'est vrai que dans le volume en question, on a beaucoup plus de contributions qui portent sur des objets qui viennent des arts visuels que de la littérature. Et ce n'est pas du tout un choix de notre part. Enfin, l'ouvrage était ouvert à tous. Mais de fait, c'est ça le résultat. Ouais.
Justement, je voulais demander qu'est-ce qui a motivé le choix, justement le fait qu'il y ait beaucoup plus de contributions consacrées, dévolues aux arts plastiques, à la photographie. Bon, il n'y en a qu'une sur la photographie, évidemment, oui. Mais une sur la musique aussi,
oui.
Sur le rap.
Oui, tout à fait. Hein, oui.
Et c'est la seule aussi, je crois, dans
le
florilège.
Est-ce que c'est la seule?
Oui, c'est la seule sur la musique. Après, moi, dans la mienne, je parle un tout petit peu d'une mise en slam d'un texte aussi. Oui, oui. Mais ça fait partie d'une performance générale. Et c'est vrai que sinon, on a des chapitres qui portent donc sur la photographie. Il y en a deux. Il y a celui de Marianne Dourgoni sur les archives photographiques d'Éthiopie. D'Eric Animis sur la réutilisation des archives.
Le lien Italie-Éthiopie.
Ça c'est Marianne Nourgoni. Ouais. Et Eric Animis sur l'Algérie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, au moment de constituer l'ouvrage, je ne me souviens plus exactement. Je sais qu'il y a des propositions qu'on a dû refuser. Je ne me souviens plus forcément lesquelles. En tout cas, il n'y avait pas dans notre entendement une volonté de privilégier davantage les arts visuels que la littérature, par exemple, si c'est la question, ou les arts visuels davantage que les arts de la scène ou la performance, quoi. Donc, de fait, voilà, ça s'est retrouvé, c'était involontaire.
Ce que je voulais simplement dire, mais bon, c'était pour pas avant que ça dépassait trop ce point, c'est que la porosité à laquelle faisait allusion Maëline, je dirais qu'elle s'exerce beaucoup plus quand les expositions ont lieu sur le boulevard Raspail que quand elles ont lieu à la Maison des Arts de Talence. Voilà, donc on est plus poreux quand c'est le boulevard Raspail que quand c'est Talence. Voilà.
C'est une allusion à Beauté Congo.
Oui, je veux dire simplement que nos collègues en sont plus sensibles à ce qui se passe à Beauté Congo qu'à ce qui s'est passé avec ces expositions ici. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est une réalité dont il faut tenir compte.
Bon, après, Beauté Congo, je pense qu'il y a le côté phénomène. Il y a tout le presque tapage médiatique lié à ça.
C'était un événement.
Voilà, c'était un événement.
Comment vous dites, tapage?
Oui, on a parlé tout à l'heure de tapage à propos d'autres choses, mais bref.
Merci. Et en ce qui concerne l'organisation de l'ouvrage, il y a trois parties principales. Remixer l'archive, performer l'archive, reconstruire l'archive. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation générale de l'ouvrage? Est-ce qu'il y avait une motivation théorique ou autre?
Oui, alors d'ailleurs, c'est une question intéressante parce que justement, on vient de paraître la première recension de cet ouvrage par une de nos bonnes collègues, Marie-Aude Fouéré, dans la revue Politique africaine, et qui reproche justement, bon, c'est le seul reproche qu'elle fait au livre, c'est plutôt sympa, mais qui reproche quand même au livre justement de ne pas avoir suffisamment conceptualisé ce qu'on entend par archives. S'il s'agit juste de dire, bon voilà, les gens prennent des archives et puis c'est chouette et ils se les approprient, bon voilà, c'est pas très intéressant. Et donc elle, finalement elle regrette, elle le reproche pas, mais elle regrette que la question n'ait pas été plus problématisée en un certain point. Donc on a quand même essayé de le faire dans l'introduction, et en effet on a beaucoup réfléchi à la structure, et on souhaitait que la structure de l'ouvrage la façon dont les chapitres s'enchaînaient pouvait finalement contribuer à donner un sens à cette question, à cette problématique de l'archive. Alors en effet, la première partie, on l'a intitulée « Remixer l'archive », la deuxième « Performer l'archive » et la troisième « Reconstruire l'archive » ou « Construire l'archive ». Et le livre s'appelle « Archive Remix », donc en quelque sorte reprend le titre de la première partie, puisqu'on a finalement considéré que la façon dont les artistes, au sens large, y compris les écrivains, pouvaient s'emparer de l'archive, revenait de toute façon à une forme de remix. Donc, c'est-à-dire on part des archives et on les décortique, on les déplace, on en refait quelque chose d'autre, on les recycle. Et donc ensuite, on a essayé effectivement de détailler davantage. Donc voilà, remixer l'archive, ça répond à une sorte de pratique assez générale. Et ensuite, on a deux autres modalités, si on peut dire, ou deux autres types de pratiques qu'on a intitulées « Performer l'archive » ou « Reconstruire l'archive ». Et dans l'introduction, on parle également de « Violation de l'archive ». Donc là, on a essayé de détailler de quelle manière est-ce que ces artistes, justement, remixent cette archive. Donc certains, on a considéré en font une forme de performance. Là, on pourra peut-être poser la question à Sophie Moulard à partir du corpus et de l'artiste qu'elle a étudié. Et puis d'autres la reconstruisent. Alors c'est le cas d'une de nos collègues, Emmanuelle Spies, qui parle de la trajectoire d'un artiste nigérian. Et qui montre comment cet artiste, qui s'appelle Dil, s'attelle à bâtir une archive de la ville à partir des déchets, en fait. Donc il fonde un musée des déchets à Lagos. Voilà, donc c'est une façon comme une autre de travailler l'archive et de réfléchir sur les déchets, voilà, comment les déchets de la ville forment en fait une forme d'archive de la ville et peut-être permettre une autre lecture de cette ville. Donc c'est aussi une forme de provocation. Donc la provocation, c'est aussi, c'est ce qu'on a observé, une modalité ou une modalité assez communément utilisée par les artistes. Certains artistes qui vont effectivement s'adonner à une forme de violation de l'archive, où là, carrément, à partir de la reproduction d'une archive coloniale, ils vont créer un palimpseste, hein, ils vont véritablement écrire sur cette archive coloniale, donc subvertir cette archive coloniale, par exemple un traité de cession des terres, et ils vont y superposer leur propre texte poétique. Hein, donc là, c'est le cas d'un artiste congolais qui s'appelle Patrick Mudekereza, dans le cadre d'une exposition qui s'est tenue au musée de Tervuren, Congo Far West, qui visait justement à interroger le patrimoine colonial de cette exposition. Alors je ne sais pas si peut-être du coup ça peut être l'occasion de rentrer un peu plus dans le livre et de voir, d'étudier un peu avec vous les modalités de remixage de ces archives à travers soit la performance de l'archive, soit la construction d'une archive et les enjeux peut-être liés aussi à la construction d'une archive par les artistes eux-mêmes.
Oui, ce qui est très intéressant dans l'ouvrage, c'est aussi dans cette réappropriation de l'archive, c'est, disons, le travail politique et militant. Alors, c'est quelque chose qui m'a frappé dans votre chapitre consacré à un rappeur. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire comment ce militantisme politique s'exprime à partir de ce travail de réappropriation archivistique ?
Justement, je vais faire la connexion avec ce que disait Maëline tout à l'heure, quand elle parlait de violation de l'archive. Chez Elom Vince, le rappeur sur lequel j'ai travaillé, le rappeur d'origine togolaise sur laquelle j'ai travaillé, il y a une volonté, non pas forcément de violation, ce serait peut-être un petit peu violent, quoique, mais il y a une volonté de désacralisation de l'archive. C'est-à-dire que dans bien des cas, effectivement, l'archive est perçue comme quelque chose de très respectable et d'immuable, peut-être. Et donc là, il y a une volonté chez Elom Vince de s'emparer de l'archive, alors de plusieurs types d'archives, c'est-à-dire par exemple des archives historiques qui nous replongent dans l'histoire coloniale ou alors postcoloniale, donc des premières décennies, ou une histoire qu'il dit traditionnelle, en fait. Donc là, on pourrait discuter le terme également, mais donc un savoir traditionnel qu'il estime, en tant que jeune urbain de Lomé, dont il a été éloigné de par son éducation et de par, finalement, ce qui est valorisé dans sa vie de jeune adulte. Donc il y a la volonté à la fois donc, de s'emparer d'archives que lui-même conteste. Alors il en conteste parfois la validité, d'ailleurs, c'est-à-dire d'archives qui, selon lui, alors là, je suis vraiment dans son discours à lui, seraient galvaudées, transformées, voire manipulées. Et donc il va lui-même, d'ailleurs, donc il s'en empare pour lui-même en faire quelque chose de personnel, très librement, en fait, de la façon la plus émancipée possible. Et puis, il y a une archive qu'il a tendance peut-être à sacraliser. Alors, c'est moi qui le dis, pour le coup. Donc, une archive qui peut mettre en scène des personnages que lui a tendance à... auxquels il se réfère plus particulièrement, notamment donc, des figures du panafricanisme, puisque c'est un rappeur qui se dit très, très clairement et très officiellement panafricain. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et donc, en fait, effectivement, s'emparer de ces archives qui, là, pour le coup, ont été, selon lui, occultées, cachées ou peu valorisées, justement, pour des raisons politiques. Et il a tout un projet. Alors, il a plusieurs projets artistiques, et notamment un, justement, vous parliez de militantisme ou d'activisme, tout simplement. Donc, un projet qui s'appelle Artivism, donc art et activisme. Et donc, c'est un projet qui mêle à la fois la découverte d'un de ces personnages du panafricanisme à travers un film suivi d'un débat et puis suivi de performances, puisqu'on l'a dit, effectivement, donc, mon article a été mis dans la catégorie performance de l'archive de façon tout à fait pertinente, tout en sachant peut-être que j'insisterai, mais ça semble assez évident, sur le fait que être... attaché à l'un des chapitres n'exclut pas, et bien évidemment, d'être tout à fait concerné par les deux autres, puisque dans le cas de l'artiste sur lequel j'ai travaillé, c'était remixage de l'archive et reconstruction de l'archive. Donc les trois sont tout à fait pertinents dans ce cas-là.
Mmh. Voilà. Oui, sur moi, j'ai écrit un article sur la photographie. Une des premières fois où j'écris sur la photographie, en fait, et c'est dans le chapitre, c'est la construction du regard photographique qui m'a beaucoup intéressé, mais c'est une histoire qui, si vous voulez, a une genèse assez originale à partir véritablement d'un stock d'archives non classées et que nous avons classées et auxquelles nous avons voulu, nous avons d'abord attribué un sens, puis confronté le sens que nous attribuions avec l'auteur. Et l'article est une mise en question de ce travail et de sa validité, en deux mots, enfin, ou trois. Jean Rollin est un écrivain dont on parle par les temps qui courent et qui avait écrit en 1988 un très beau livre qui s'appelle « La ligne de front », qui est un récit de voyage. À cette occasion, il avait rencontré un jeune Tanzanien qui sortait du séminaire et qui voulait devenir photographe. Bon. Je passe sur les détails, mais il lui a envoyé un appareil de photo. Et ce John Kiyaya, est devenu photographe, a eu un certain succès. Jean Rollin a suivi son travail. Jean Rollin était grand reporter au Monde, à Libération, a suivi son travail. Et ça a été exposé dans beaucoup d'endroits. Et d'ailleurs, même à Lectoure, dans le Gers, ici. Et moi, j'ai découvert qu'il était considéré comme un grand photographe. Et alors là, arrive la question du... Le travail de John Kiyaya était sur le marché. Mais John Kiyaya, lui, était toujours en Tanzanie, et en Tanzanie, personne ne le connaissait. Donc il y avait là encore une dissonance entre cette sorte de notoriété qu'avait John auprès de certains spécialistes de la photo, en particulier en France, et puis le fait qu'en Tanzanie, moi je connais bien la Tanzanie et les artistes tanzaniens, personne ne connaissait John Kiyaya. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là de problématique. Et de fait, j'ai rencontré Jean Rollin qui m'a dit oh, « Vous savez, moi, si vous venez chez moi, j'ai 1500 négatifs de John dans une caisse sous mon lit. Vous pouvez toutes les prendre, classez-les, faites ce que vous voulez. Donc, parce que moi, je ne peux pas m'en occuper. » Il avait ça. Donc, c'était un peu une situation. Bah, c'est ce que nous avons fait. Guy Lenoir est allé voir chez Jean, a pris les 1500 négatifs. Nous les avons regardés, nous les avons classés et en fonction. Et là, évidemment, nous avions un projet. À savoir, nous avons sur ces 1500, nous en avons sélectionné 120 que nous avons fait numériser. Et c'est à partir. Et là, nous avons construit un John. Et ce John en question, c'était. Il y avait beaucoup de photos qui représentaient des paysages, la nature, mais il y avait aussi beaucoup de photos que je n'avais jamais vues de ce type sur des photos de l'Afrique, de gens qui travaillaient. Parce que ça vous paraît peut-être... aujourd'hui, on parle beaucoup de Seydou Keïta. Il y a quoi, une expo à Paris où il y a un livre. Enfin, Seydou Keïta, il y a toujours des portraits, de la photo de studio, mais je n'ai jamais vu des photos de gens qui travaillaient. Ce que je trouve tout à fait étrange, quand même, d'une certaine manière. On voit des gens qui font la guerre, on voit des gens qui se font tirer le portrait, mais on ne voit pas des gens qui travaillent. Or, John, lui, photographie des gens qui travaillaient. Et moi, je trouvais ça, au fond, extrêmement intéressant comme démarche. Et d'autre part, il photographiait, il faisait des portraits, mais il ne faisait pas des portraits dans son studio, il les faisait dans la nature, et il les mettait en scène. Et donc, on a confronté un peu et ce regard-là. Donc, en fait, si vous voulez... Donc il y avait un regard photographique original, à la fois sur le travail, sur un certain rapport à la nature, sur un certain... Il y avait, et c'est ça qu'on a essayé de faire, de montrer. Et donc, voilà, nous avons assumé ce choix-là. Et surtout, et alors là, c'est quand même un point essentiel, c'est que cette construction du regard photographique, j'étais en correspondance avec John, et je lui ai demandé de légender les photos. Et donc, il m'a envoyé les légendes de toutes ces photos qui étaient en Swahili. Donc, je les ai traduites. Et donc, on a légendé ces photos, les 120 photos. Et je me demandais comment il pouvait... Parce que le problème qu'il avait, c'est un problème, au fond, qu'on a souvent dans beaucoup de situations africaines, c'est qu'il avait, au fond... pas vraiment le lexique pour parler de la photographie, parce que lui, il était photographe, il avait un regard, mais c'est compliqué de parler d'une photo. Pour moi, je trouve ça assez difficile. Tout le monde n'est pas Roland Barthes, et encore, peut-être parlait-il peu des photos. Mais enfin, donc je trouve que... Donc, John, on a eu un dialogue sur ce problème-là, comment parler de la photographie en Kiswahili, et d'un type de photo qui était, je trouve, extrêmement particulier. Et je persiste à penser que c'est toujours particulier, parce que je suis très intrigué par... Et d'en parler, et si vous voulez, tout ça étant évidemment, comme je le disais, à l'écart du marché de la photographie africaine, qui est, si vous voulez, enfin bon, je ne ferai pas de dessin, mais enfin, les spécialistes connaissent bien la revue Noire, un certain nombre de gens, tout ce qui se passe chez nos amis collectionneurs. Et donc il y a vraiment un vrai marché de ça. Et John, beaucoup de gens voulaient s'asseoir là-dessus. Et donc quand on a voulu l'exposer, on nous a dit, ah bon, oui, mais est-ce que vous avez les droits? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez là? Jean Rollin m'avait dit, écoutez, moi je suis copain avec John, faites ce que vous voulez, écrivez-lui. Donc on a eu une relation directe avec John. On a exposé, on en a vendu pas mal à Bayreuth, justement. On l'a vendu ici, on a donné de l'argent, on a invité John, il a emporté l'argent, il était très très content, parce qu'effectivement, on a confronté notre regard à John, à d'autres spécialistes, et je pense qu'il dit quelque chose de particulier sur la photo, et je dis, il le dit d'une certaine façon à l'écart du marché, et il le dit aussi avec un autre regard sur son pays, et je trouve que ça, c'est ça finalement... Bah, assez peu vu. Enfin, moi, je ne demande pas mieux que d'en voir d'autres. Parce que mais il fait ça avec des moyens qui ne sont pas les moyens du photomontage, pas les moyens du numérique. Et il fait ça. Et je trouve que c'est une façon artisanale. Mais dans l'artisanat, il y a une vision originale de la Tanzanie. Voilà.
Il y a aussi une question qui revient régulièrement dans l'ouvrage. C'est l'archive. Une fois que l'archive a été remixée, est-ce que c'est toujours... Quel est son avenir? Est-ce que c'est toujours une archive? Est-ce que ça redevient une archive conventionnelle ou...
C'est une question théorique, justement. Oui. Je ne m'y aventurerai pas forcément. Parce que qu'est-ce qu'on appelle une archive conventionnelle? Ça reste à discuter. Oui.
Ça en avait le négatif. Oui. Ça, c'est sûr que c'est...
Voilà, en l'occurrence, c'est vrai que je n'ai pas... travaillé plus que ça justement sur la notion d'archives stricto sensu, et que là c'était pour l'occasion j'ai pu participer à travers oui. puisque j'ai l'habitude oui. de travailler sur le rap, sur les arts de la scène, et non pas spécifiquement sur l'archive. En l'occurrence, moi comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais plutôt dans un exemple d'archives non conventionnelles, d'archives librement accaparées, lues, réinterprétées, remixées, etc. Après, je peux peut-être répondre par contre sur le fait que Elom Vince lui-même, dans une espèce de réflexivité assez intéressante, parce que c'est quelqu'un qui a une réflexion très poussée sur son activité. J'en profite peut-être pour préciser justement que, comme beaucoup finalement de rappeurs en Afrique, c'est quelqu'un qui dispose d'un bagage intellectuel assez élevé. C'est quelqu'un qui a fait de longues études et qui donc a toute une réflexion sur son travail qui lui permet donc notamment de revendiquer le fait que justement il refabrique l'archive et que lui-même archive l'archive et qu'il est très intéressé par tout le travail justement d'archivage à travers son site notamment, de son travail en fait, et justement du rôle que cela peut avoir dans la diffusion. Au-delà, alors là j'en reviens au rôle politique justement, de la diffusion finalement de l'activité artistique en Afrique, et du fait qu'à la fois être inscrit dans des réseaux panafricains et à la fois avoir énormément recours à Internet lui permet une très grande liberté, notamment d'éviter ou de passer outre en fait certains filtrages de réseaux auxquels il pourrait ne pas appartenir pour diverses raisons. Et donc, finalement, diffuser sa production et l'archiver de façon très libre, c'est ça, grâce aux nouvelles technologies et grâce à la circulation panafricaine.
Ouais. Moi, peut-être pour compléter, c'est vrai que j'ai travaillé dans ce livre aussi dans le cadre j'ai signé un chapitre qui parle donc de cette exposition Congo Far West qui a été faite au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren en Belgique. Donc le musée avait invité deux artistes congolais, le photographe Sami Baloji, qui aujourd'hui est très connu, hein, et son acolyte Patrick Moudekereza, qui lui est plutôt dans l'écriture et qui par ailleurs est opérateur culturel d'ailleurs davantage qu'artiste, mais c'est un autre débat. En tout cas, dans cette exposition, ils ont travaillé ensemble, ils ont chacun extrait donc une pièce qui dormait dans les réserves du musée de Tervuren. Ils ont chacun choisi leur support. Et donc, ils ont, comme je le disais, subverti ces archives. Et je me posais notamment la question de savoir si la performance de l'archive, que j'étudie donc dans le cadre de ce projet, devient elle-même une archive, et alors quelle en est la portée politique. Donc je m'explique. La performance de l'archive ici, dans le cas du projet Congo Far West, concernait la mise en slam, en fait, d'une moukande. Alors une moukande, c'était en fait tout simplement un traité de cession des terres entre un dignitaire local et donc un fonctionnaire colonial. Donc traité qui était forcément très biaisé, puisque les dignitaires locaux en général ne savaient pas lire. Donc on leur demandait, on leur expliquait, et on leur demandait de signer. Donc ces traités sont assez saisissants à voir, puisque vous avez une liste en fait de tout ce que le dignitaire, donc le chef de coutumier de tel et tel territoire, cède aux colonisateurs. Et puis vous avez la signature du fonctionnaire en question, et puis à côté vous avez la croix du chef. En gros, c'est ça, hein, je caricature à peine. Ces textes-là, ces moukandes, ont été subvertis par Patrick Moudekereza, qui lui-même a réinscrit sur la liste de ce traité de cession des terres ses propres textes poétiques, donc les textes que ça lui a inspirés. Et ensuite, ces textes, ainsi que le texte original, en fait, ont été slamés par un chanteur, enfin deux chanteurs belgo-congolais qui vivent en Belgique. Et cette performance a elle-même été enregistrée et était diffusée en fond sonore dans l'exposition. Donc la question que je me posais, c'est finalement, qu'est-ce qu'on a en fait ? On est en face de quoi ? On est en face de quelque chose qui a plusieurs niveaux vers une archive qui est performée et qui elle-même est enregistrée. Et donc, je me posais la question du statut de cet enregistrement. Est-ce que cette performance enregistrée devient une archive? Et si elle devient une archive, est-ce qu'elle n'est pas d'une certaine manière récupérée par l'institution qui elle-même, à travers ce projet, tente d'avoir, ou plutôt à la prétention de porter un geste politique en interrogeant son propre patrimoine. Donc est-ce que finalement, les artistes eux-mêmes ne se laissent pas prendre au piège de l'institution qui leur permet, qui leur donne la possibilité, tout en restant dans le cadre de l'institution, de porter un regard politique et de critiquer finalement ce contenu patrimonial des musées. Voilà, donc la récupération institutionnelle finalement de la performance de l'archive ou du remixage, d'une forme de remixage de l'archive. Je voulais peut-être revenir aussi un petit peu sur la partie reconstruire l'archive qui contient également un chapitre qui s'appelle Panafest, une archive en devenir. Alors Panafest, c'est quoi? C'est le sigle pour dire Pan-African Archive. D'ailleurs, c'est Pan-African Festival Archive. Donc, c'est l'archive des festivals panafricains, qui est un projet porté donc, par notre collègue qui a co-dirigé l'ouvrage avec moi, Dominique Malaquais. Et j'en parle parce que c'est une manière aussi de faire un trait d'union avec une exposition qu'elle a également curatée très, très récemment au musée du Quai Branly sur un de ces festivals panafricains, qui était le festival Dakar 66. Donc, c'est aussi un article intéressant qui propose en fait une sorte de, je ne sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, des repères, des premiers mots sur les enjeux politiques de ces festivals panafricains qui ont été organisés donc dans les années, en pleine période post-indépendance et en pleine enthousiasme post-indépendance dans les années 60 et 70 et donc leurs enjeux politiques en pleine guerre froide aussi, hein. Voilà, donc c'était aussi une façon de dire que tout ça fait écho à des problématiques que l'on découvre ou aussi que l'on redécouvre et qui permettent, de porter un regard un peu différent sur cette Afrique que l'on a tendance à considérer toujours au travers de ces lunettes coloniales, quoi. L'Afrique comme ayant été uniquement investie par les puissances colonisatrices. Là, par exemple, très clairement, l'étude de ces festivals montre, par exemple, le rôle des pays de l'ancien bloc soviétique. Donc ce sont aussi des archives que l'on redécouvre actuellement et qui, je crois, nous permettent de un regard un peu... un peu différent, peut-être un peu moins binaire.
Nous vous remercions et je remercie aussi les contributeurs, contributrices pour nous avoir éclairé sur la nature de ce très beau livre que je recommande à tout le monde.
Merci à toi.